Chapitre 186. La vaisselle et les diamants de Madame de Bellière. À peine Fouqué eut-il congédié Vanel qu'il réfléchit un moment. « On ne saurait trop faire, dit-il, pour la femme que l'on a aimée. Marguerite désire être procureuse, pourquoi ne pas lui faire ce plaisir? Maintenant que la conscience la plus scrupuleuse ne saurait rien me reprocher, pensons à la femme qui m'aime. Madame de Bellière doit être là. » Il indiqua du doigt la porte secrète. S'étant enfermé, il ouvrit le couloir souterrain et se dirigea rapidement vers la communication établie entre la maison de Vincennes et sa maison à lui. Il avait négligé d'avertir son ami avec la sonnette, bien assuré qu'elle ne manquerait jamais au rendez-vous. En effet, la marquise était arrivée. Elle attendait. Le bruit que fit le surintendant l'avertit. Elle accourut pour recevoir par-dessous la porte le billet qu'il lui passa. « Venez, marquise, on vous attend pour souper. » Heureuse et active, Madame de Bellière gagna son carrosse dans l'avenue de Vincennes et elle vint tendre sa main sur le perron à Gourville qui, pour mieux plaire au maître, guettait son arrivée dans la cour. Elle n'avait pas vu entrer, fumants et blancs d'écume, les chevaux noirs de Fouqué, qui ramenait à Saint-Mandé Pélisson et l'orfèvre lui-même à qui Madame de Bellière avait vendu sa vaisselle et ses joyaux. Pélisson introduit cet homme dans le cabinet que Fouqué n'avait pas encore quitté. Le surintendant remercia l'orfèvre d'avoir bien voulu lui garder comme un dépôt ses richesses qu'il avait le droit de vendre. Il jeta les yeux sur le total des comptes qui s'élevait à 1 300 000 livres. Puis, se plaçant à son bureau, il écrivit un bon de 1 400 000 livres, payables à vue à sa caisse, avant midi le lendemain. « 100 000 livres de bénéfices !» s'écria l'orfèvre. « Ah, monseigneur, quelle générosité !»« non pas, monsieur !» dit Fouqué en lui touchant l'épaule. « Il est des politesses qui ne se paient jamais. Le bénéfice est à peu près celui que vous eussiez fait. » Mais il reste l'intérêt de votre argent. » En disant ces mots, il détachait de sa manchette un bouton de diamant que ce même orfèvre avait bien souvent estimé 3 000 pistoles. « Prenez ceci en mémoire de moi, » dit-il à l'orfèvre, « et adieu, vous êtes un honnête homme. » « Et vous, » s'écria l'orfèvre, touché profondément, « vous, monseigneur, vous êtes un brave seigneur. » Fouqué fit passer le digne orfèvre par une porte dérobée. Puis il alla recevoir Madame de Bellière, que tous les conviés entouraient déjà. La marquise était belle toujours, mais ce jour-là, elle resplendissait. « Ne trouvez-vous pas, messieurs, dit Fouqué, que Madame est d'une beauté incomparable ce soir? Savez-vous pourquoi? Parce que Madame est la plus belle des femmes, dit quelqu'un. Non, mais parce qu'elle en est la meilleure. Cependant, dit la marquise en souriant, cependant, tous les joyaux que porte Madame ce soir sont des pierres fausses. Elle rougit. Oh, oh, s'écrièrent tous les convives, on peut dire cela sans crainte d'une femme qui a les plus beaux diamants de Paris. Eh bien, dit tout bas Fouqué à Pélisson. Eh bien, j'ai enfin compris, répliqua celui-ci, et vous avez bien fait. C'est heureux, fit en souriant le surintendant. Monseigneur est servi, cria majestueusement Vatel. Le flot des convives se précipita, moins lentement qu'il n'est d'usage dans les fêtes ministérielles, vers la salle à manger où les attendait un magnifique spectacle. Sur les buffets, sur les dressoirs, sur la table, au milieu des fleurs et des lumières, brillait à éblouir la vaisselle d'or et d'argent la plus riche qu'on pût voir. C'était un reste de ces vieilles magnificences que les artistes florentins, amenés par les Médicis, avaient sculptées, ciselées, fondues pour les dressoirs de fleurs quand il y avait de l'or en France. Ces merveilles, cachées, enfouies pendant les guerres civiles, avait reparu timidement dans les intermittences de cette guerre de bon goût qu'on appelait la Fronde. Alors que seigneur se battant contre seigneur, se tuait mais ne se pillait pas. Toute cette vaisselle était marquée aux armes de Madame de Bellière. « Tiens !» s'écria La Fontaine, « un P et un B !» Mais ce qu'il y avait de plus curieux, c'était le couvert de la marquise, à la place que lui avait assigné Fouquet. Près de lui s'élevait une pyramide de diamants, de saphirs, d'émeraudes, de camées antiques. La sardoine gravée par les vieux Grecs de l'Asie mineure, avec ses montures d'or de Mysie, les curieuses mosaïques de la vieille Alexandrie montées en argent, les bracelets massifs de l'Égypte de Cléopâtre jonchaient un vaste plat de palissy, supporté sur un trépied de bronze doré, sculpté par Benvenuto. La marquise pâlit en voyant ce qu'elle ne comptait jamais revoir. Un profond silence, précurseur des émotions vives, occupait la salle engourdie et inquiète. Fouquet ne fit pas même un signe pour chasser tous les valets chamarrés qui couraient, abeilles pressées, autour des vastes buffets et des tables d'office. « Messieurs, dit-il, cette vaisselle que vous voyez appartenait à Madame de Bellière, qui, un jour, voyant un de ses amis dans la gêne, envoya tout cet or et tout cet argent chez l'orfèvre, avec cette masse de joyaux qui se dresse là devant elle. Cette belle action d'une amie devait être comprise par des amis tels que vous. Heureux l'homme qui se voit aimer ainsi. Buvons à la santé de Madame de Bellière. » Une immense acclamation couvrit ses paroles et fit tomber, muette, pâmée sur son siège, la pauvre femme qui venait de perdre ses sens, pareil aux oiseaux de la Grèce qui traversaient le ciel au-dessus de l'arène à Olympie. « Et puis, ajouta Pélisson, que toute vertu touchait, que toute beauté charmait. Buvons un peu aussi à celui qui inspira la belle action de Madame, car un pareil homme doit être digne d'être aimé. » Ce fut le tour de la marquise. Elle se leva, pâle et souriante, tendit son verre avec une main défaillante dont les doigts tremblants frottèrent les doigts de Fouquet, tandis que ses yeux, mourants encore, allaient chercher tout l'amour qui brûlait dans ce généreux cœur. Commencé de cette héroïque façon, le souper devint promptement une fête. Nul ne s'occupa plus d'avoir de l'esprit, personne n'en manqua. La Fontaine oublia son vin de Gorny et permit à Vatel de le réconcilier avec les vins du Rhône et ceux d'Espagne. L'abbé Fouquet devint si bon que Gourville lui dit « Prenez garde, monsieur l'abbé, si vous êtes aussi tendre, on vous mangera. » Les heures s'écoulèrent ainsi joyeuses et secouant des roses sur les convives. Contre son ordinaire, le surintendant ne quitta pas la table avant les dernières largesses du dessert. Il souriait à la plupart de ses amis, ivre comme on l'est quand on a enivré le cœur avant la tête, et pour la première fois, il venait de regarder l'horloge. Soudain, une voiture roula dans la cour, et on l'entendit, chose étrange, au milieu du bruit et des chansons. Fouquet dressa l'oreille, puis il tourna les yeux vers l'antichambre. Il lui sembla qu'un pas y retentissait, et que ce pas, au lieu de fouler le sol, pesait sur son cœur. Instinctivement, son pied quitta le pied que Madame de Bellière appuyait sur le sien depuis 2 heures. « Monsieur d'Herblay, évêque de Vannes !» cria l'huissier. Et la figure sombre et pensive d'Aramis apparut sur le seuil, entre les débris de 2 guirlandes dont une flamme de lampe venait de rompre les fils.